nzamba
nzambi rasamirana
rétrospective de l'actualité de la semaine.
C'est avec un grand plaisir de vous retrouver dans cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine et qui s'achève ce dimanche 18 août 2024. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere, bienvenue.
Inzamba.
L'action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kati Burundi se dit fortement préoccupée par la civile population carcérale dans toutes les prisons du Burundi en cette période de l'épidémie de la variole du singe. Jean-Claude Niburumunsi, chargé des questions juridiques au sein de la Kati Burundi, tire une sonnette d'alarme. Si rien n'est fait dans l'immédiat, la situation pourrait menacer la santé et la dignité des détenus. Suivez plutôt Jean-Claude Niburumunsi.
La surpopulation carcérale au Burundi est un problème bien documenté, mais malheureusement encore largement ignoré. Des milliers de détenus sont entassés dans des cellules étroites, dépassant largement la capacité d'accueil. Cette promiscuité humaine favorise non seulement la propagation rapide des maladies infectieuses, mais elle empêche également toute tentative de distanciation physique, qui est pourtant cruciale pour limiter la transmission de la variole du singe. Par ailleurs, le manque criant d'eau potable dans les établissements pénitentiaires du pays constitue un autre facteur aggravant. L'accès à l'eau est essentiel pour maintenir une hygiène minimale, un impératif encore plus vital en période d'épidémie. Or, dans nos prisons, les détenus se voient souvent privés de cette ressource indispensable, ce qui rend toute mesure de prévention sanitaire quasiment impossible. En outre, la situation alimentaire dans les prisons est alarmante. Le manque de nourriture, tant qu'en quantité qu'en qualité, affaiblit considérablement le système immunitaire des détenus, les rendant encore plus vulnérables face à cette épidémie. Encore mal nourri ne peut pas combattre efficacement une infection, et le risque que la variole du singe fasse des ravages parmi la population carcérale est réel et imminent. Et face à cette situation, nous en appelons urgentement aux autorités compétentes et aux organisations humanitaires pour qu'elles prennent des mesures immédiates et adéquates. Il est impératif de désengorger les prisons en favorisant des alternatives à l'incarcération pour les délits mineurs, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et garantir une alimentation suffisante et équilibrée aux détenus. Des campagnes de sensibilisation doivent être menées et de toute urgence au sein des établissements pénitentiaires. Il en va de la santé, de la dignité et de la vie des milliers d'êtres humains incarcérés. Ils ont droit à des conditions de détention conformes aux normes internationales des droits de l'homme. Ne laissons pas alors cette épidémie se transformer en catastrophe humanitaire dans nos prisons.
Quittons les prisons pour parler de ce cauchemar qui survécut à Gatumba en 2004 et qui a emporté plusieurs vies humaines. Les survivants de la communauté de Banyamulenge et les familles des victimes qui ont été massacrées dans la zone de Gatumba en province Bujumbura du Rira le 13 août 2004 viennent d'engager une série de plaintes pour réclamer justice pour les leurs. Ces plaintes ont été déposées devant le procureur général de la République du Burundi, l'auditorat militaire supérieur près la cour militaire du Sud Kivu en République démocratique du Congo et devant le secrétaire général de l'Office rwandais d'investigation, car les assaillants ont été identifiés comme étant de nationalité burundaise, congolaise et rwandaise, selon l'avocat des victimes de la communauté de Banyamulenge à Gatumba, Dominique Inchospe, regrette que 20 ans après les massacres de Gatumba, aucune enquête judiciaire n'ait été engagée. Suivez-le.
Nous avons déposé 3 plaintes, une devant le procureur de Bujumbura, une devant l'auditorat militaire du Sud Kivu, une troisième à Kigali devant l'office des poursuites, et nous saisissons également la Cour pénale internationale. Que cherchons-nous ? plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut absolument que ces quatre justices saisies démarrent une investigation. Lorsqu'on est la victime d'une infraction, a fortiori d'une très grande gravité, il y a une demande symbolique d'une prise en charge de la justice des souffrances qui ont été endurées. C'est ce que nous souhaitons, surtout après 20 ans d'inaction où aucune de ces juridictions, à commencer même par la Cour pénale internationale qui aurait pu être saisie par le Conseil de sécurité, n'a rien fait. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'obtenir des investigations et nous allons correspondre régulièrement avec les trois parquets qui sont saisis et avec celui de la Cour pénale internationale pour demander des investigations précises en direction des auteurs présumés. Nous avons un troisième objectif qui est que nous savons que les dirigeants d'un parti politique du Burundi, UTU, qui sont messieurs Agathon Rwasa et monsieur Pasteur Habimana, n'ont pas fait mystère de la responsabilité de leur mouvement dans le génocide. Or, ces deux personnes sont vivantes, elles vivent au Burundi, l'une d'entre elles a été candidate aux élections présidentielles. Si une des juridictions, y compris Congo ou Kigali ou ces pays, émet un mandat d'arrêt international, eh bien, nous serons extrêmement contents et cet objectif nous paraît parfaitement réalisable. À terme, nous allons bien entendu demander un dédommagement financier pour chacune des victimes et chacune des familles dans lesquelles des personnes ont été tuées.
Rappelons que dans la nuit du 13 au 14 août 2004, 166 civils banyamulenge ont été massacrés, 108 blessés et 8 portés disparus dans le cas des réfugiés de l'ONU dans la zone Gatumba. Cette communauté de banyamulenge avait fui les violences les visant en République démocratique du Congo. Des dates douloureuses, c'est aussi celle du 14 au 15 août 1988 qui a marqué le massacre de Ntegambarangara contre la communauté Tutsi du Burundi. C'est très malheureux de voir que les auteurs de ces massacres perpétrés contre les Tutsi dans les communes de Ntegambarangara soient pardonnés alors qu'ils n'ont jamais demandé pardon. Ce regret est exprimé par Emmanuel Nkurunziza, secrétaire de l'AC Génocide Chirimoso Volé Canada. Il le dit au moment où le 14 de ce mois faisait la 36e année après ces massacres. Cette association ne comprend pas non plus comment les Nations Unies n'ont pas encore réagi contre les auteurs alors que ces derniers avaient avoué leur responsabilité dans ces actes ignobles de génocide. Écoutez plutôt Emmanuel Nkurunziza.
Nous avons sorti ce communiqué pour marquer la double commémoration de deux séries de massacres génocidaires perpétrés par le groupe génocidaire Palikéoutou, devenu FNL ou alors CNL par les temps qui courent. Parce que il y a 36 ans, le 14 août 1988, dans les communes du nord-est de Ntega et Marangara, ce groupe génocidaire donc commençait le massacre à grande échelle, en fait systématique, de tous vivant dans ces deux communes. Et puis, comme cela ne suffisait pas en réalité, c'était à cause de l'amnistie que ce groupe avait obtenu indûment de la part des pouvoirs d'alors. Le 13 août 2004, le groupe a récidivé et a procédé au massacre des Tutsi Banyamulenge, c'est-à-dire Tutsi d'origine congolaise, qui se trouvaient dans leur camp de réfugiés à Gatumba, et laissant 166 morts, principalement des femmes et des enfants qui sont morts pour la plupart calcinés, bref, des crimes ignobles qui n'ont jamais été punis. C'est donc pour marquer cette double commémoration que nous avons sorti ce communiqué. Bien évidemment, notre devoir d'humain insensible au crime de génocide nous impose, nous recommande d'abord de nous incliner devant la mémoire de ces victimes innocentes et également de sympathiser, de marquer notre sympathie avec leurs familles. Et nous avons profité également de cette occasion pour interpeller d'abord et surtout l'Organisation des Nations Unies parce que c'est le premier responsable de plus jamais ça sur le plan mondial. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle a été mise sur pied, soulignant surtout le fait que au lendemain de l'amnistie indue accordée aux génocidaires de 1988, l'Organisation des Nations Unies, pourtant bien informée de la nature génocidaire de leur massacre, n'a pas levé le petit doigt, ce qui, comme nous l'avons souligné, a encouragé ce même groupe à récidiver, à perpétrer encore une fois l'innommable. Et ensuite, en 2004, cette fois-là, il y avait non seulement une importante présence des Nations Unies au Burundi avec des casques bleus, mais avec un bureau des Nations Unies. Et c'est pour cela que nous condamnons avec la dernière énergie ce deux poids, deux mesures que les Nations Unies appliquent quand il s'agit du crime de génocide perpétré contre les Tutsis du Burundi. Nous avons également profité de cette occasion pour interpeller les acteurs nationaux surtout et internationaux qui œuvrent encore une fois dans le domaine du plus jamais ça, à ne jamais baisser les bras, à continuer l'exigence des Nations Unies, la traduction en justice, l'arrestation et le jugement de ces auteurs, surtout qui sont commis parce que le Palipe Hutu, à l'époque de 2004, par la voix de son porte-parole, avait déclaré et revendiqué la responsabilité de ce crime.
Inzamba.
Poursuivons l'actualité qui a marqué cette semaine avec l'insuffisance des places dans la morgue d'Omongi. Certaines personnes qui perdent leurs proches au sein de l'hôpital se plaignent qu'elles ne trouvent plus de place et sont obligées de les transporter vers d'autres morgues dans les provinces voisines. Au niveau du district sanitaire d'Omongi, les responsables affirment être au courant de cette situation et espèrent résoudre cette question. Après l'ouverture d'un nouvel hôpital de l'église anglicane qui disposera d'un service de morgue, les précisions avec Jean-Pierre Abanguil.
Selon les sources sur place à l'hôpital d'Olmongé, on observe un dysfonctionnement au niveau de la morgue de l'établissement. La partie qui reste opérationnelle ne dispose que 6 places. Les familles qui y perdent leur heure sont inquiètes. Elles sont contraintes de transférer les défunts soit à l'hôpital de Burui, soit à celui de Nyanzalaka en province de Makamba, au sud du Burundi. Certains corps se détériorent au cours de la route, déplorent les familles affectées par ces conditions. Les habitants de Lomongé demandent à la direction de l'hôpital de résoudre ce problème urgent. Le responsable du district de sanité de Lomongé confirme la situation et promet que la construction d'une morgue à l'hôpital Amahoro de l'église anglicane apportera un soulagement à ce problème. L'hôpital de Lomongé, construit en 1940, n'est plus adapté à la croissance démocratique de la ville.
Merci à toi, Janvier Haba Rugira. La conférence des évêques catholiques du Burundi se dit préoccupée par une situation de misère dans laquelle se trouve actuellement la population burundaise. Dans une rencontre de ce lundi à Gitega, les évêques catholiques ont reconnu quelques efforts du chef de l'État pour développer le pays, mais ils lui demandaient de tout faire pour chercher des solutions aux questions liées notamment à la dépréciation de la monnaie burundaise et au manque récurrent du carburant et du prix des produits de première nécessité qui ne cessent de grimper. On écoute Monseigneur Bonaventure Nahimana, il est le président de la conférence des évêques du Burundi.
Nous avons d'abord remercié le chef de l'État pour tous les efforts qu'il déploie dans le souci de développer notre pays, par exemple au niveau de l'agriculture et de l'élevage, au niveau du soutien des jeunes, des femmes, mais aussi d'autres activités qui se font, mais qui ne nous empêchent pas d'avoir des inquiétudes dans la situation actuelle où on voit que la monnaie burundaise ne cesse de se déprécier. Il y a le manque récurrent du carburant, il y a le pouvoir d'achat de la population qui ne cesse de diminuer. Et nous voudrions lui demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse sortir de cette situation et donner aussi nos considérations, parce que nous avons aussi le souci que notre pays puisse avancer sur la voie du développement, sur la voie de la paix et de la sécurité.
Critique de la mesure présidentielle avant de clore cette rétrospective de l'actualité de la semaine, la mesure du chef de l'État de contraindre les fonctionnaires à des travaux de propriété est émaillée de beaucoup d'irrégularités. C'est ce que relève le parti Côte Debout de Kefani Wizi. Président de ce parti regrette que c'est un programme qui ne durait pas dans le temps et dans l'espace.
Et premièrement, la campagne en soi n'est pas un projet durable parce que on est entré dans les vraies salités et tout près des bureaux, mais dans les lieux publics et au niveau des quartiers, rien n'est en train d'être fait. Aussi, on ne connaît pas comment on va continuer à faire la propriété après cette semaine. Là, il faudra rappeler que s'il y a beaucoup d'os arrêtés autour des bureaux, ce n'est pas uniquement à cause de la racheté des fonctionnaires, mais c'est plutôt à cause du manque de carburant ou les véhicules qui devraient transporter ces arrêtés dans les lieux appropriés ne fonctionnent plus à cause du manque de carburant. Aussi, il faut noter que cette mise n'a pas été scrupuleusement respectée par tous les services parce que les gens travaillent jusqu'à au moins 10 heures et puis ils rentrent au bureau, alors que le chef de l'État avait intimé l'ordre que les fonctionnaires n'entreront plus au bureau, sauf s'ils donnent l'ordre de le faire après avoir vérifié que la propriété a été bien respectée. Cela donc diminue un peu le pouvoir du chef de l'État parce que il devrait avoir un pouvoir absolu dans son pays et s'il donne l'ordre et que les fonctionnaires ne le respectent pas comme tel, vous comprenez que c'est un vice sur la considération du pouvoir que devrait avoir le chef de l'État. Sans oublier que cela a perturbé les activités de différents services. À titre d'exemple, nous sommes dans une semaine où on devrait déposer les dossiers pour faire partie des commissions communales électorales indépendantes, mais il y a des papiers qui manquent dans les dossiers, notamment les attestations de service, où les administratifs qui devraient donner ces attestations donnent pour raison qu'ils sont attirés à faire la propriété, et par voie de conséquence, la plupart des partis politiques ne pourront pas remplir les dossiers dans toutes les communes. D'ailleurs, les uns et les autres se posent la question, pourquoi est-ce que cette mesure de suspension d'activité est venue dans cette période où il fallait constituer les dossiers pour être candidat au CECI.
Il indique également que les véritables causes de l'instabilité n'ont pas été évoquées. Et selon lui, il s'agit notamment du manque de carburant qui empêche les sociétés chargées d'évacuer les détritus de l'affaire. Mais le même parti Codebo suggère des solutions à ce problème. Il demande, entre autres, que le gouvernement fasse tout le nécessaire pour que le carburant soit disponible pour permettre à ces sociétés de débarrasser des déchets, mais surtout de distribuer de l'eau partout pour que la propriété se généralise et soit pérenne. On écoute encore une fois Kefa Nivis.
L'eau qui manque dans les villes, dans la ville de Bujumbura, dans la plupart des villes de notre pays, est un handicap très sérieux à la propriété. Malgré qu'on a dit que les maladies de mes salles ne proviennent pas de cet manque d'eau, mais plutôt d'une quantité élevée de s'arrêter autour des bureaux ou partout ailleurs. Je pense que plutôt le gouvernement doit comprendre que l'eau, quand elle manque, on ne peut pas faire la propriété autrement. C'est pour cette raison qu'au niveau du parti Codebo, nous demandons au gouvernement de disponibiliser d'abord le carburant en quantité suffisante pour que les véhicules qui devraient transporter les arrêtés vers les lieux appropriés le fassent régulièrement. Mais aussi, il faudra qu'il y ait une quantité suffisante d'eau, parce qu'on ne peut pas faire de la propriété sans eau. Et nous demanderions à ce que cette mesure de suspendre tous les services de l'État pendant une période ne soit pas prise encore une autre fois, mais plutôt, il faut une stratégie qui montre comment les arrêtés seront enlevés dans tous les lieux et de façon régulière.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément de critique de la mesure présidentielle que nous terminons la rétrospective de cette semaine. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine chez vous. Au revoir et à la prochaine.
Zamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.